Radio Okapi.
À la une de l'actualité ce soir, clôture ce samedi de la campagne de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. C'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre le peuple et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale comme des partenaires porteurs des solutions, déclare le président Félix Tshisekedi. L'escalade des conflits armés prive des centaines de milliers d'enfants de leur droit à l'éducation dans la province de l'Ituri. Selon l'UNICEF qui donne cette alerte, depuis le début de l'année, plus de 290 écoles ont été détruites, empêchant 130 000 enfants supplémentaires d'aller à l'école. Le comité international de la Croix-Rouge, CICR, alerte sur une prolifération inquiétante d'engins explosifs de guerre dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. Nous en parlons avec Destin Nalanda, expert en contamination par les armes au sein du CICR. À toutes et à tous, bonsoir. Le président de la République déclare ce samedi qu'être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dit à l'occasion de la clôture de la campagne de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux, a-t-il ajouté. Plus de détails avec vous, Alain Irung.
Dans son discours, le chef de l'État affirme, je cite, « Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale, non pas comme les solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions, solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective, fondées sur l'expérience de solidarité. » Fin de citation. Pour lui, la République démocratique du Congo n'est pas seulement un vaste territoire au cœur du continent. Elle est un carrefour d'espoir, une mosaïque de jeunesse créative et le deuxième poumon écologique de la planète. Nos forêts capturent le carbone du monde, nos eaux irriguent 9 pays, nos minerais stratégiques, cobalt, cuivre, coltan, lithium, germanium et terres rares alimentent la transition énergétique globale, notre résilience forgée dans l'épreuve inspire les bâtisseurs de la paix, précise Félix-Antoine Tshisekedi.
Entre-temps, la RDC est confrontée à plusieurs risques du fait de l'évolution géopolitique et économique mondiale. C'est le président de la République qui l'a fait savoir hier au cours de la réunion du Conseil des ministres. D'après Félix Tshisekedi, cité par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, l'Organisation mondiale du commerce prévoit une contraction du commerce international et le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale pour l'année 2026. Aussi, le dollar américain s'est déprécié, reflète une perte de confiance dans les marchés obligatoires, notamment surtout qu'en RDC, la majeure partie des dépôts et les frais bancaires sont en devise. Suivons cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres, lu par Patrick Mouyaya, sélectionné par Jean Gandou.
Notre économie est confrontée à 4 risques. 1. Une inflation importée due à la hausse mondiale des prix manufacturés. 2. Une pression sur le franc congolais aggravée par la baisse des recettes d'exportation. 3. Un ralentissement de l'économie chinoise qui fragilise la demande pour nos ressources stratégiques. 4. Une forte volatilité des cours de métaux rendant la planification économique incertaine. La suspension temporaire de nos exportations de cobalt depuis février 2025, destiné à réguler les prix, illustre l'importance des stratégies de maîtrise de l'offre pour protéger nos intérêts nationaux. À ces défis économiques s'ajoute un contexte sécuritaire critique alimenté par le conflit à l'est du pays qui exige de ressources financières colossales pour financer l'effort de guerre, soutenir les populations déplacées et protéger notre intégrité territoriale. Dans ces cadres, le président de la République est d'avis que sécuriser nos flux économiques extérieure et repenser notre positionnement géopolitique n'est plus une option, mais une nécessité. Notre pays doit non seulement se défendre, mais aussi se positionner. Notre voix doit compter, notre économie doit résister et notre diplomatie doit anticiper.
Jean-Marie Kabengela Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, demande au ministre de la Justice, Constant Mutamba, de démissionner du gouvernement pour ne pas gêner l'enquête préjuridictionnelle initiée contre lui. Dans une communication faite hier à son cabinet, ici à Kinshasa, il plaide pour que la première ministre prenne une mesure conservatoire pour empêcher le ministre d'accéder au palais de justice, en dépit du fait qu'il n'est pas encore mis en accusation. Maître Jean-Marie Kabengela s'exprimait ainsi sur les enjeux judiciaires de l'heure dont l'action du ministère public contre le ministre de la Justice et l'application de la peine des travaux forcés ou obligatoires interdite d'après lui par la Constitution mais toujours prononcée par les juridictions congolaises. On l'écoute au micro de Jeff Ngai.
C'est un ministre qui, par ses injonctions, peut créer une obstruction à la bonne marche, à la bonne administration de la justice. Donc, lui-même, la personne concernée, peut, par honneur, déposer sa démission. La première ministre peut prendre un acte conservatoire, l'empêchant d'accéder au bâtiment public. Parce que vous avez vu récemment le meeting qui a été tenu dans l'enceinte d'un patrimoine de l'État, devant les agents de l'État. C'est encore des infractions dénigrant le magistrat. Ça s'appelle détournement de la main d'œuvre. Je ne sais pas si pour cette infraction, il y a eu déjà instruction ou début de réquisitoire parce que lorsque vous prenez les agents de l'État à vos fins privées, vous commettez l'infraction qu'on appelle détournement de la main d'œuvre.
Nous l'avons dit dans les titres, l'escalade des conflits armés, les affrontements intercommunautaires et les déplacements qui en résultent privent des centaines de milliers d'enfants de leurs droits à l'éducation dans la province de l'Ituri, alerte ainsi l'UNICEF dans un communiqué publié sur son site. Depuis le début de l'année, plus de 290 écoles ont été endommagées ou détruites, empêchant 130 000 enfants supplémentaires d'aller à l'école. Ces chiffres portent le nombre total d'enfants déscolarisés dans la province à plus d'1,3 million. L'essentiel de ces communiqués, écrit par Alain Rong Mouchinge, est rendu ici par Ronéline Tibonira.
Entre janvier et avril 2025, la recrudescence des violences à Ituri a entraîné les déplacements de plus de 100 000 personnes, dont la moitié sont des enfants. Sur la même période, au moins 105 personnes ont été tuées et les violations graves des droits des enfants, notamment les enlèvements, les mutilations, le violon sexuel ainsi que le recrutement et l'utilisation d'enfants par des groupes armés, ont augmenté de 32% par rapport à la même période en 2024. Depuis le début, nous parlons d'une crise de protection dans l'Est de la RDC, mais il est désormais évident qu'il s'agit aussi d'une urgence éducative, a déclaré John Agbor, représentant de l'UNICEF en RDC. En Ituri, les violences et les conflits brisent les droits des enfants à apprendre, les exposant davantage au risque d'être recrutés par des groupes armés, exploités et victimes d'abus. Dans l'ensemble de l'Est de la RDC, incluant les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika, plus de 1,8 million d'enfants touchés par les violences sont actuellement déscolarisés.
Direction le Nord Kivu, la Croix-Rouge RDC distribue depuis lundi une assistance en vivres à près de 10 000 familles dans le groupement des Rougari, Chefri de Boucha, territoire des Rutshuru. La majorité des bénéficiaires sont des personnes retournées qui étaient dans les camps des déplacés, ainsi que des familles qui étaient restées dans la zone malgré les difficultés. Cette assistance a été chaleureusement accueillie par ces familles qui s'efforcent de reconstruire leur vie après plusieurs mois de troubles et un séjour difficile dans les camps. Plotin Yambenga. Reportage.
Veuve et mère de 5 enfants, Ephrasie Mudabaiga s'est dit soulagée de recevoir cette assistance en vivres de la part de la Croix-Rouge de la RDC.
La Croix-Rouge est venue nous assister. Je viens de recevoir des provisions, des farines, du riz, des haricots, de l'huile et du sel. Nous disons merci pour cette aide.
Au total, 9 875 ménages sont concernés par cette aide. Parmi eux, plus de 8 800 familles sont récemment revenues dans leur village lorsque les camps de déplacés autour de Goma ont été démantelés. Un peu plus de 1 000 autres vivaient dans la zone tout au long de la crise. Guylain Lifendi de la Croix-Rouge Nord Kivu présente la ration distribuée.
Cette quantité dépend de la taille de ménage. Un ménage où nous avons à partir de 6 personnes. La Croix-Rouge remet 21 600 g de haricots, de l'huile à la hauteur de 5 litres au moins, la farine de maïs 36 kg, 36 kg de riz. Nous remettons également 900 g de sel de cuisine.
Notez que cette distribution qui s'est poursuivie vendredi est la deuxième opération de la Croix-Rouge RDC dans cette zone depuis les retours des populations déplacées. La première a eu lieu en avril dernier, a précisé Guylain Lifendi.
Autre nouvelle sur la radio de la paix, les dernières pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, ont provoqué des dommages importants sur plusieurs écoles, laissant les élèves sans endroit pour poursuivre les études. Parmi ces écoles, il y a aussi un centre de passation d'examen d'État qui est le centre de Bandundu 3, abrité à l'Institut Sebeko Malebo. L'inspecteur principal provincial IPP de la province éducationnelle Kwilu 1, Roland Kizini, qui s'est rendu sur place pour constater l'ampleur des dégâts, rassure que des dispositions sont en train d'être prises pour que les épreuves hors session prévues lundi 2 juin se passent dans de bonnes conditions. Irène Bomalozolo.
Parmi les écoles de la ville de Bandundu endommagées par les dernières pluies, particulièrement celle de vendredi, nous pouvons citer entre autres l'Institut Mayoko, le complexe scolaire Ewa, l'Institut Nkufi Kilanga, l'Institut Sanduku, l'Institut Sebko Malebo 1, l'Institut Malebo 2 et tant d'autres. Dans ces établissements scolaires, l'on note des toitures emportées par les vents, des murs fissurés, d'autres écroulés et plusieurs biens de valeur détruits dont les bancs et les dossiers scolaires. Roland Kizini est l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Kwilu 1. Face à ces catastrophes naturelles, il déclare ce qui suit.
Nous allons voir comment faire avec l'autorité administrative pour qu'on fasse un peu vite pour leur venir à l'aide.
C'est vrai, le centre Bandundu 3 est touché, mais quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'il y a d'autres dispositions à prendre, donc le centre va fonctionner comme tel.
Ces écoles affectées regorgent une bonne population scolaire qui reste sans endroit où étudier, indique ce cadre de l'éducation qui se dit préoccupé. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Santé. Dans la province du Maniema, environ 54 000 enfants de 6 à 59 mois sont attendus à ces mois de juin pour bénéficier de leurs vitamines A et albendazole pour renforcer leur immunité. Le coordonnateur provincial en charge des programmes de nutrition au niveau de la DPS Maniema qui annonce cette nouvelle à Radio Capi remercie l'UNICEF qui vient déjà d'approvisionner ses programmes de ses intrants nutritionnels. Docteur Moussa Bikoulo Biansé Corner demande aux parents qui ont des enfants concernés de ne pas manquer à ces rendez-vous. Il s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Maintenant là, l'UNICEF vient de nous approvisionner en intrants nutritionnels, c'est-à-dire vitamine A et albendazole pour donner aux enfants de 6 à 59 mois, surtout la vitamine A et albendazole, on doit donner aux enfants de 12 à 59 mois dans le cas de déparasitage. Alors, c'est important de comprendre ici que c'est une activité qui se passe deux fois l'an et avec comme objectif renforcer l'immunité des enfants contre toutes les éventuelles infections possibles et de parasiter aussi les enfants contre les vers intestinaux qui peuvent successivement aussi faire tomber l'enfant dans la morbidité par rapport à la malnutrition. Au plus tard, le 10 juin, l'activité doit commencer dans toutes les zones de santé et ça va prendre un mois. C'est-à-dire, nous demandons aux parents de venir avec les enfants au niveau des centres de santé pour bénéficier non seulement l'intervention par rapport à la consultation préscolaire, mais aussi donner aussi l'occasion aux enfants de profiter de la supplémentation en vitamine A et des parasitages au albendazole. Et il s'agit de rappeler que l'UNICEF a donné les intrants par rapport à notre cible requise. Nous nous attendons environ à 54 000.
Dans l'actualité, sachez aussi que la commission sociale de l'Assemblée provinciale du Tanganyika dénonce les vendredis les mauvaises conditions de vie des détenus dans les prisons des différents territoires. Dans un rapport présenté à la plénière, cette commission recommande au gouvernement de réhabiliter et équiper les prisons. Des précisions avec Paul Munanga.
D'après ces rapports, plusieurs prisons du Tanganyika manquent l'eau potable, l'électricité, la nourriture et les médicaments. Les conditions sécuritaires ne sont pas garanties et les bâtiments sont dans un état de délabrement très avancé. Cette situation est à la base des évasions massives à répétition des détenus, rapporte la commission sociale de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Cette commission recommande l'affectation en urgence du personnel pénitentiaire supplémentaire, l'évaluation et la planification de la réhabilitation ou la relocalisation des infrastructures carcérales, la mise en place d'un système d'approvisionnement en eau potable régulier et accessible aux détenus. Il y a aussi l'amélioration des conditions sanitaires par la construction des latrines et des douches, la dotation des fonds de fonctionnement pour assurer l'alimentation, les soins médicaux et la sécurité des prisons, le renforcement de la sécurité des établissements pénitentiaires par la construction des clôtures appropriées et le transfert des détenus considérés dangereux dans des prisons de haute sécurité, conclut ce rapport. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, effectue en Côte d'Ivoire une visite de travail et d'amitié. Hier, le chef du gouvernement sénégalais a rencontré son homologue ivoirien Robert Begbré Mambé avant un entretien avec Alassane Ouattara. L'objectif affiché est de renforcer les liens, notamment commerciaux, entre les deux pays, mais aussi il a été aussi question de la sécurité et des relations diplomatiques dans la sous-région.
L'invité.
Le Comité international de la Croix-Rouge CICR alerte sur une situation de plus en plus critique. La présence croissante d'engins explosifs des guerres dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. Destin Alanda, expert en contamination par les armes, pointe du doigt les récents affrontements entre groupes armés survenus avant la prise de la ville par les rebelles du M23. Le bilan est lourd. Entre janvier et mars 2025, plus de 300 personnes ont été blessées par ces engins abandonnés. Dans un entretien exclusif à Radio Capi, Destin Alanda dresse un tableau glaçant de cette réalité explosive qui menace chaque jour les habitants de Goma. Il s'entretient avec René Lintibonera.
Destin Alanda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Que retenir aujourd'hui de la situation des restes explosifs des guerres dans la province du Nord Kivu?
Comme vous le savez, la ville de Goma et ses environs a connu plusieurs affrontements. Du coup, lorsqu'il y a eu la guerre dans le milieu, il y a certainement l'usage d'armes dans plusieurs zones. Cette situation a entraîné la présence de plusieurs munitions et effets militaires qui ont été abandonnés et qui aujourd'hui continuent certainement à entraîner plusieurs cas de blessures, soit par engins explosifs ou soit par mauvaise manipulation de ces engins explosifs.
Environ 300 personnes ont été victimes de ces engins. Quelles sont les zones les plus touchées et comment s'organise la prise en charge des victimes?
Le zone le plus touché, je peux dire que c'est toute la ville de Goma qui a été touchée. Mais comme vous le savez, nous sommes dans une série de campagnes de sensibilisation. Nous sommes en train de travailler avec les quatre bases, avec qui nous sommes en train justement d'enseigner que le comportement adopté une fois qu'on est en face d'un engin explosif. Pour revenir sur ce qui est de chiffres, laissez-moi vous dire qu'entre janvier et mars 2025, plus de 1400 blessés par arme ont été soignés à l'hôpital de Sebekan Docho. Et voilà, cette structure sanitaire est tenue par le CICR à Goma. Dans ce sens, on a identifié 300 blessés par engin explosif. C'est dans ce nombre de 300 blessés par engin explosif qu'on retrouve justement certains qui ont été blessés par de restes explosifs de guerre. Ça est dans différents quartiers. À ce titre, je peux citer les quartiers de Lac Vert, Mugunga, Ndosho, Kahembe, Majingo et voilà, et tant d'autres. Et partout dans ces quartiers, nous sommes en train de mener des activités de sensibilisation pour que ces cas ne puissent plus se produire.
Alors, malgré une accalmie apparente dans certaines zones, la menace des restes explosifs persiste. Quelles sont les actions, par exemple, menées par les CICR en matière de prévention? S'il faut quitter la ville de Goma et parler de la cité de Sake, qui est également une zone affectée par les conflits entre l'armée loyaliste et le M23.
Les CICR, en tant qu'organisation humanitaire, fait l'identification des zones contaminées et met en œuvre une campagne de sensibilisation à l'intention justement des leaders communautaires et des populations des communautés affectées. Et voilà, il y a des messages de sensibilisation qui ont été partagés sur les réseaux sociaux à travers certainement des groupes WhatsApp et d'autres forums. Pour plus de détails, il y a certainement des spots radio qui sont en préparation pour diffusion et qui vont être justement à la portée de tous dans les jours à venir.
Que doivent faire les différents acteurs pour réduire la présence de ces engins explosifs au sein des communautés?
Et comme vous le savez, les CICR en tant qu'organisation n'effectuent pas d'abord des opérations de déminage. Parce que, tout simplement, retirer des restes explosifs de guerre nécessite des compétences souvent très difficiles à trouver. Et voilà, et c'est ce qui prolonge aujourd'hui même la présence des restes explosifs de guerre parmi les civils. Mais le CICR, à son niveau, essaie un peu de dialoguer avec les administrations compétentes pour la mise en place ou l'instauration d'un mécanisme de réponse à la problématique de restes explosifs de guerre, et notamment le besoin le plus ardent, c'est le besoin de dépollution. Par ailleurs, les CICR continuent de sensibiliser les différentes parties au conflit sur l'impact que leurs choix en matière de méthode et moyens de guerre peuvent avoir sur les civils, bien qu'après plusieurs mois et plusieurs années, justement après les affrontements. Et
quel message adressez-vous à toute la population dans son entièreté se trouvant dans les zones à risque?
Nous disons ceci, qu'en cas de découverte d'un engin explosif, il est indispensable de ne pas toucher, de ne pas le manipuler, soit par la main ou par le pied, de ne pas essayer un peu de le déplacer, mais aussi il faut éviter d'allumer le feu dans une zone où des engins explosifs sont présents.
Destin Nalanda, merci.
Est-ce la fin de ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rung, la mise en onde des Debs et Vita, et grâce à Mzati à la présentation. Merci de l'avoir écouté.